Bonjour Yves au micro pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne saurait déroger à la tradition et qui vous rappellera ou qui vous apprendra que 24 notes secondes, que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore musicale plus ou moins pertinente les petites images qui bougent. Ce jour dans 24 notes secondes, eh bien, pas de réalisateur à célébrer, pas de compositeur à faire découvrir ou d'actrice à admirer, mais tout simplement une petite incursion dans les terres russes et soviétiques à travers quelques films qui d'ailleurs, je dois l'avouer, ne sont pour aucun soviétique ni même russe, mais en tout cas quelques films qui se passent ou qui font semblant de se passer quelque part dans cet empire qui n'a pas fini de nous faire trembler, mais qui n'a aussi, il faudrait peut-être pas l'oublier, pas fini de nous émerveiller avec tout le génie qu'il a pu produire, compositeur, romancier, cinéaste, j'en passe et d'autres, la Russie et même l'Union soviétique, eh bien, c'est une terre culturellement si riche qu'on ne saurait la mépriser pour des raisons sociopolitiques ou commerciales, certes intéressantes, mais qui, à mes yeux, n'ont que peu de valeur par rapport aux richesses, donc je l'ai déjà dit, artistiques. Voilà qui est dit dans la Russie de Poutine. On va retourner bien avant, puisqu'on va retourner d'une part à 1966 et puis d'autre part à la Révolution russe, puisque nous allons écouter, on n'aurait pas pu s'en passer, pardonnez-moi, un extrait de la bande originale d'un film tourné par David Lean, cette même année 1966 et inspiré d'un roman de Boris Pasternak qui obtint en 1958 et à mon souvenir à la grande ire des autorités soviétiques de l'époque le prix Nobel de littérature pour le docteur Jivago, bien sûr, une fresque, une épopée qui suivait toute la révolution russe et puis la révolte des Russes blancs. Et on va dire que Carlo Ponti, le producteur de ce film, avait réuni tous les ingrédients possibles et imaginables pour une super production réussie. Il y avait David Lean en réalisateur. L'homme venait de signer deux autres super productions qui avaient été autant de succès critiques que commerciaux. Le Pont de la Rivière Kwai en 1957 et Laurence d'Arabie en 1962. Il y avait Robert Bolt, dont le nom ne vous dira rien, mais qui était le plus grand scénariste de l'époque pour adapter, et ce n'est pas rien, le roman Fleuve de Boris Pasternak, le tout en plus de 3 heures de projection. Et puis dans les rôles principaux, excusez du peu, il y avait Omar Sharif, Alec Guinness, Rod Steiger, quelques autres, et la délicieuse Julie Christie dans le rôle de Lara, bien sûr, la principale héroïne de ce film. Julie Christie qui venait remplacer Sophia Loren, l'épouse de Carlo Ponti, un temps pressenti, qu'à vrai dire, on voyait pas trop bien dans le rôle d'une jeune soviétique, même si Julie Christie elle-même n'avait rien de soviétique. La musique de ce film, comme celle de Laurence d'Arabie, déjà signalée, elle était de Maurice Jarre, et vous ne manquerez pas de reconnaître dans cet extrait la chanson de Lara. Allez, je ne vais pas vous le faire, on va plutôt l'écouter par Maurice Jarre dans 24 notes secondes. Thank you. Et oui, vous n'aviez pas pu l'oublier, la chanson de Lara, un extrait de la bande originale du Docteur Jivago, un film de David Lean, 66, une musique de Maurice Jarre. Ces deux-là collaborèrent beaucoup. Bon, je dois l'avouer, je ne suis pas un fan de Maurice Jarre, qui me semble avoir beaucoup répété les mêmes figures avec les mêmes instruments pendant toute sa carrière. Mais ma foi, quand on écoute la bande originale du Docteur Jivago, eh bien, on est transporté dans les grandes plaines russes, à cette époque où l'histoire se faisait quelque part entre la guerre de 14-18, la révolution russe, avec son cortège de bonheur et de malheur, et puis les figures charismatiques du Docteur Jivago, interprété par Omar Sharif, et de la douce Lara, interprétée par Julie Christie. Il y avait notamment le grand train qui traversait les steppes russes, c'était absolument magnifique, le tout en 70 mm, je ne sais pas quoi, le genre de choses, le genre de film, pardonnez-moi chers amis, qu'on ne peut difficilement envisager de voir à la télévision. Il paraît même qu'il y en a qui regardent ça sur leur téléphone portable. Bouh, c'est pas beau. On va passer à un autre film, alors je vous dis pas de continuité thématique ou chronologique, nous allons passer à 1990 pour évoquer deux films tournés cette année-là par Sean Connery qui avait abandonné depuis quelques années déjà le rôle de James Bond et qui donc s'était tourné vers des productions, alors à la fois films d'action, on va le voir, mais aussi films un peu plus intimistes. C'était le cas du film suivant, un film de Fred Chepesi, tourné donc en 1990 d'après un roman de John le Carré, donc, qui n'est certainement pas besoin de le présenter, l'un des plus grands romanciers d'espionnage et un grand spécialiste de la guerre froide qui opposa, mais elle était quasiment terminée en 1990, qui opposa le côté russe et le côté américain, pour le faire simple. D'un autre côté, on appelle ça le monde libre et le monde pas libre. C'est peut-être un peu plus subtil que ça. Mais en 1990, bien tout à la fois la Maison Russie, je ne sais pas si je l'avais dit, c'est le titre de ce film, s'intéressait à la guerre froide, mais en même temps profitait du fait que la guerre froide était à peu près terminée, puisque ce fut l'un des premiers films où les autorités russes, donc, sauf erreur de ma part de l'époque, accordèrent de tourner sur place. Et on voit donc dans ce film, notamment, de magnifiques vues de Saint-Pétersbourg. L'intrigue, eh bien, on voit un professeur incarné par Sean Connery, s'improviser agent secret et tomber amoureux d'une délicieuse russe incarnée par Michele Pfeiffer, qui est aussi russe que je suis coureur de 110 mètres haies, mais ma foi, ce n'était pas grave, le couple fonctionnait à peu près, malgré la différence d'âge déjà notable entre Sean Connery et la douce Michele. Et la musique de ce film, oh joie, oh bonheur, il y a longtemps qu'on ne l'avait pas entendu, elle est signée de Jerry Goldsmith dans 24 notes secondes. La délicieuse partition de Jerry Goldsmith pour La Maison Russie, un film de Fred Chebbizy tourné en 1990 avec Sean Connery dans le rôle principal. Sean Connery qu'on va retrouver, alors pas vraiment en Russie, mais en tout cas dans un sous-marin russe, dans un autre film tourné cette même année 1990. Mais à part cette thématique, il y aura peu de choses à voir avec La Maison Russie. Un film de John McTiernan, dont ai-je besoin de vous le préciser, qui fut le réalisateur de Piège de cristal 1, 2 et puis peut-être même le 3, je ne sais plus, je m'y perds. Et qui donc, en 1990, avait choisi d'adapter un roman de Tom Clancy, qui lui aussi faisait référence à l'ancien temps. D'ailleurs, je me souviens avoir vu le film à sa sortie. Bah oui, je l'ai vu à la sortie. Et il y avait un petit encart au début, histoire de vous rappeler, si jamais vous aviez oublié de regarder la télévision pendant l'année qui précédait, que la guerre froide était finie et que donc le film se passait avant. Et qu'il fallait bien comprendre que les gentils Russes qu'on voyait finalement dans le film et les méchants Russes, et bien maintenant c'était fini. Tous les Russes allaient devenir Riganiens à l'époque, c'était ça. On sait ce qu'il en est advenu, mais c'est pas le problème. En tout cas, Sean Connery a incarné dans ce film un charismatique, et c'est peu de le dire, chef, je sais pas comment ça s'appelle, de sous-marin. Un russe qui décidait de partir aux États-Unis parce que sa femme était morte sur une table d'opération, si je me souviens bien. Et du coup, eh bien, à la fois la marine russe le pourchassait pour éviter que des secrets vitaux, parce qu'évidemment son sous-marin était ultra-moderne, ne tombent dans les mains de ces méchants Américains. Quant aux méchants Américains, eh bien, ils se demandaient un peu qu'est-ce que c'était que ce sous-marin russe qui voulait s'infiltrer dans leurs eaux territoriales. Mais à la fin, ça finissait bien, je vous rassure. La musique de ce film, elle était signée du grand et regretté Basile Poledouris. Et alors là, vous allez écouter plus russe que ça, tu meurs dans 24 notes secondes.
Yeah.
Camarades auditeurs, vous êtes bien sur la radio préférée. C'est un extrait de la bande originale d'À la poursuite d'Octobre Rouge, je vous l'ai dit. Plus cœur de l'armée rouge que ça, tu meurs. Un extrait donc d'une musique signée de Basile Poledouris pour un film, je ne sais pas si je l'ai dit, oui, je l'ai dit, adapté d'un roman de Tom Clancy avec plein de trucs pour des garçons, il faut le reconnaître. Dans le monde des sous-mariniers, il y a très très peu de filles et dans le film, je ne me souviens pas qu'il y en avait beaucoup. Mais en tout cas, dans le film, Sean Connery qui jouait le rôle du commandant russe, donc qui était plutôt du côté des bons, eh bien ma foi, il est très 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 bien Sean Connery dans ce film qui, dans son genre, est signé par le grand John McTiernan, était plutôt bienvenu. On va complètement changer de genre et d'époque, puisqu'on va revenir dans les années 70 pour écouter la bande originale d'un film qui, là encore, était une adaptation d'un roman d'un auteur américain, un peu oublié maintenant, qui s'appelle Martin Cruz Smith, et qui avait donc signé un roman qui évoquait, dans mon souvenir, j'avoue que le visionnage du film est assez lointain, un sombre trafic de zibline. Et oui, vous savez, ces petites bêtes dont certains font des manteaux de fourrure, les imbéciles. Et on y retrouvait le tout jeune William Hurt et à ses côtés, dans le rôle d'un machiavélique agent russe ou soviétique, Lee Marvin, le solide Lee Marvin. Le tout était, ma foi, plutôt agréable. Je ne suis pas sûr que ça ait bien vieilli. Mais en tout cas, la musique, elle était signée de James Horner, alors tout jeune. Ce n'est pas le James Horner de Titanic ou d'Avatar que vous allez entendre. Peut-être un James Horner plus inventif, comme vous allez pouvoir en juger en écoutant cet extrait assez ébouriffant dans 24 notes secondes. Ah, je vous avais dit que ce serait surprenant, un extrait signé James Horner avec, sauf erreur de ma part, un petit bout du Lac des Cygnes dedans, de la bande originale de Gorky Park, un film de Michael Apted, qui demanderait peut-être à être revu. Mais ma foi, ce sera une autre fois, et on va se quitter toujours dans notre série Maison Russie, si je puis dire, en écoutant cette fois un extrait d'une bande originale, elle aussi signée de James Horner, pour un film de notre national Jean-Jacques Annaud, qui avait... plus ou moins repris un vieux projet jamais concrétisé de Sergio Leone consacré au siège de Leningrad et à la bataille épique qui s'ensuivit, un tournant de la Seconde Guerre mondiale, tout le monde en est d'accord, où les Allemands furent arrêtés dans leur progression sur le flanc russe, et ma foi, le début de la fin pour eux. Une super production internationale façon Jean-Jacques Annaud qui réunissait dans les rôles principaux Joseph Fiennes et Jude Law, qui étaient deux tireurs d'élite, chacun dans leur camp allemand et russe, qui se rivalisaient. Il y avait la délicate Rachel Weisz à leur côté, côté russe, et il y avait Ed Harris au côté allemand, si je me souviens bien. Bon, ma foi, tous ces gens-là parlaient anglais, mais la mise en scène était plutôt bienvenue et le style épique ne l'était pas moins. De même que la bande originale de James Horner, sur laquelle on va se quitter. Allez, je vous dirai quand même au revoir dans 24 notes secondes. Voilà, 24 secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you, bye bye.